Un soldat.
Deux, l'an. Trois.
Cette musique, au rythme prussien, vous a peut-être transporté en rêve au pays de Frédéric le Grand, Friedrich der Größte. Poursuivez votre rêve et situez-vous, en Poméranie, au printemps de 1942. À cette époque, votre serviteur, le maréchal des logis radiotéléphoniste André Piriou, de la batterie état-major du 111e régiment d'artillerie lourde coloniale, formé à Lorient, se trouve en Prusse, et je vous certifie que ce n'est pas un rêve. Pour cause, j'entame l'an 3 de la captivité. Mes véritables ennuis ont commencé le 11 mai 1940. À cette date, je suis dépêché au sud de Dinan, en Belgique, au-devant des blindés d'un certain général Rommel, qui établira une tête de pont sur la Meuse 48 heures plus tard. Muni d'un revolver à barillet, modèle 92, pourvu de 3 chargeurs, c'est-à-dire de 12 balles, et accompagné de 12 radiotéléphonistes sans armes, oui, vous avez bien compris, sans armes, je progresse en camionnette Peugeot vers le futur Feldmarschall. Mais me direz-vous, vous partez tout droit à l'abattoir? C'est tout comme. Il faut que je vous éclaire davantage sur notre situation à l'échelon régimentaire. Si notre batterie état-major est motorisée, les autres batteries ne le sont pas, et notre matériel de 12 tonnes, des 155 longs, est tiré par 20 chevaux. Ces équipages, écrasés par l'aviation ennemie, maîtresse du ciel, ne parviennent sur les positions assignées que le 14 au matin. 3 nuits de marche pour effectuer une distance de 60 kilomètres seulement. À 7 kilomètres de là, Rommel a déjà établi sa tête de pont depuis 24 heures. La mise en position de tir n'est plus possible et nos pauvres fantassins sur la Meuse, sans appui d'artillerie, sans appui d'aviation, ne peuvent que subir. Vous connaissez la suite de ces événements. Certains censeurs s'en prendront aux soldats français à l'occasion de ces engagements. Mieux inspiré il serait de s'en prendre à nos hautes sphères politiques et militaires, truffées de ces amis de l'Allemagne hitlérienne qui œuvreront bientôt à découvert sous le nom de collabos. Mieux vaut Hitler que la guerre, écrit le journal le matin. Mieux vaut Hitler que le Front populaire, déclare Pierre-Étienne Flandin, récent Premier ministre et bientôt vice-président du Conseil de gouvernement sous Vichy. Quant à certains officiers supérieurs, parlons-en. Les amiraux d'Arlan et Esteva, par exemple, le général Hunziger, responsable à Sedan, il se fait battre. Il signe l'armistice et, un an plus tard, il négocie avec les Hitlériens le protocole de Paris en prévision d'une collaboration militaire en Afrique du Nord. Semblable parcours, il faut le faire. Quelle démission, alors que, pendant ce temps, tous les hommes valides de l'île de Sein, par exemple, parmi d'autres, rejoignent l'Angleterre. Ces courageux pêcheurs, eux, n'avaient cependant pas choisi le métier des armes. Harrow, par conséquent, sur ses censeurs, soi-disant historiens, qui critiquent des soldats auxquels on n'a même pas donné leur chance. À présent que je vous ai vidé mon sac sur ce sujet, revenons à ma progression. L'aventure tourne vite au désavantage de votre maréchal des logis, si bien que, quelques jours plus tard, celui-ci, prisonnier de guerre, se retrouve ici, à Regentin, une petite agglomération de Poméranie entre Stettin et Danzig. Autre temps, autres occupations, bien sûr. Savez-vous comme quoi je suis tout de suite utilisé? Comme maréchal. Oui, maréchal Ferrand. Après le maréchalat, la maréchalerie. Curieux. Nous étions 3 frères, à la même batterie du 111e régiment d'artillerie coloniale. L'aîné, Georges, qui comme moi se dirigeait vers Péronne, où devait être reformé le régiment, fut fait prisonnier à Autrepe, sur l'Oise, tout comme moi, 20 minutes après ma capture. Il s'est trouvé ici pendant 1 an, de l'autre côté de la rue, comme garçon de ferme, chez le Bauerführer, le chef des paysans. Un grand imbécile avec lequel Georges ne tardera pas à se disputer. Celui-ci se vengera en séparant les 2 frères. Georges sera dirigé sur une sucrerie de la région à Marienwald. Maréchal des logis, et donc informé des questions chevalines, à défaut de ferrer la plus noble conquête de l'homme, je peux tout de même tenir la patte de l'animal, disons plutôt la jambe, pour respecter les termes utilisés en cavalerie. Mon travail de maréchal Ferrand ne va pas beaucoup plus loin. Mais la clientèle s'avère bientôt insuffisante. Je suis transféré chez le boulanger du village, chez Rudolf Peglo, si bien qu'aujourd'hui, en ce printemps de 1942, vous l'avez deviné, c'est là que je mets la main à la pâte. En sortirai-je de ces histoires de pâte? C'est bien souvent que je me pose la question. Qui me sortira donc du pétrin? Personne. Non, personne. Personne. Mais si, moi, moi-même, pourquoi pas? Si je me prends par la main, comme un grand, si je m'évade. Eh bien voilà, décision est prise. Je vais m'évader. Oui, mais comment faire? Quelle direction prendre? L'Est, le front russe est devant Moscou, à 1400 kilomètres. Ce n'est pas la porte à côté. Le Nord, je suis à une centaine de kilomètres de Kolberg, un port sur la Baltique. J'ai appris que dans ce port, les prisonniers ont embarqué à fond de cale deux bateaux à destination de la Suède. Mais je n'ai pas d'autres informations. L'équipée me paraît bien hasardeuse. L'Ouest, vers la France, en utilisant des trains de marchandises, pourquoi pas. Vers la Bretagne, pas question. Les Allemands s'y trouvent et je suis allergique à la couleur Felgrau. Reste la zone sud inoccupée. C'est cela. J'irai en zone sud. L'échappée représente tout de même plus de 1000 kilomètres. L'affaire peut durer 8 jours, voire 15 jours. Le moral doit en prendre quelques coups à certains moments. Il faut que je trouve un compagnon. Jean-Yves Méard, de Saint-Vouguet, dans le Nord Finistère, camarade de régiment, me déclare qu'il n'est pas mûr pour la tentative. Je m'adresse à mon voisin de paillasse. C'est Dominique Aguerre, un joyeux basque d'Anglette. Il refuse d'emblée, puis, après réflexion, se décide quelques jours plus tard. Nous sommes tous deux artilleurs, et en termes de métier, nous savons que nous formerons un bon attelage. Dominique est utilisé comme maréchal ferrant dans l'autre maréchalerie de l'agglomération. Cela va de soi. N'est-il pas un premier ouvrier de France dans cette spécialité? Nos préparatifs sont vite menés, dans la plus grande discrétion. Jean-Yves Méard demeure seul à connaître notre projet sur les 35 hommes du commando. Ce commando, qui va donc perdre ses maréchaux. En effet, le 18 juin, et oui, à 23h30, répondant peut-être à l'appel de la forêt, nous décellons un barreau de fenêtre, nous rampons sous les fenêtres des postes endormis, nous franchissons les barbelés et nous entreprenons une randonnée de 50 kilomètres à travers bois pour atteindre la gare d'embarquement de notre choix. Cette gare, c'est Altkarb, sur la voie Danzig-Berlin. Après 4 nuits de marche et d'esquives de chasseurs, de sangliers et de garde-barrières de passage à niveau, nous arrivons au terme de notre longue marche. Ouais, mais les employés de la Reichsbahn nous y attendent, revolvers au poing. Un garde-barrière les a alertés. Les suites de cette escapade, 18 jours de cellule au Stalag 2D à Stargard. Au cas où vous n'auriez jamais été incarcéré, voici comment se présente ma cellule. 3 mètres sur 1,50 m. Une lucarne grillagée dans le plafond, à 4 mètres de hauteur. Le mobilier, un panneau de bois incliné sur une brique, en guise de lit. C'est tout. La porte, percée d'un judas, présente les innombrables graffitis des précédents locataires. Hitler est un con. Textuel. Je suis bien de cet avis, mais c'est un peu osé de l'écrire en semblable lieu. Méfie-toi du pasteur Deupen s'est exprimé un autre. Merci l'ami, ça peut servir, mais ce n'est pas très discret, etc., etc. Voilà ma lecture pendant ces longues journées. Dans cet isolement, je suis livré à mes réflexions. Prisonnier j'étais, prisonnier je suis. Rien ne changeait, en somme, sinon que j'ai tenté une expérience qui s'imposait. En outre, je ne travaille plus pour l'ennemi. Allongé sur mon bas flanc, j'ai tout loisir de rêver. Mes pensées volent vers la Bretagne, où sont les miens. Il y a 4 ans, j'ai épousé Denise, mon amie d'enfance. 4 ans, et nous n'avons jamais eu la vie commune à cause de ces boches. Mes 2 frères sont également prisonniers de guerre, et Georges a, comme moi, entrepris l'évasion. Il est déjà à Lavarushka, dans un camp disciplinaire d'Ukraine. Et nos parents, que deviennent-ils? Comment vivent-ils ces événements? Mon père, dont je connais si bien la forte personnalité, est sans doute un de ces patriotes que les Allemands et les collabos appellent des terroristes. Ma pauvre mère a donc ses 4 hommes dans la tourmente. Quelle saleté, que la guerre. Lors d'une distribution de notre pitance, j'ai pu communiquer avec mon voisin de cellule. C'est un Savoyard. Il tentait l'évasion en compagnie d'un camarade. On leur a tiré dessus, sans sommation. Le camarade a été tué. Lui, le Savoyard, a eu la peau de la pomme d'Adam enlevée par une balle. Si j'avais besoin d'informations, ce cas m'apprendrait que l'évasion n'est pas une partie de plaisir. Information superflue, bien entendu, qui ne modifiera pas mes projets. En sortant de cellule, je suis affecté à la compagnie disciplinaire. C'est une baraque, entourée de barbelés, à l'intérieur du camp. Là, je pénètre dans un milieu absolument enthousiasmant. Celui de 120 gars de caractère, dont beaucoup sont des évadés récidivistes. Je découvre une véritable école de formation de l'évasion. Quel contraste entre ces hommes qui veulent rester debout et les prisonniers à la Francisque qui grouillent dans ce camp de Stargard. Le 14 juillet, nous trouvons l'occasion de donner une bonne leçon à ces derniers. Ces énergumènes ont cru bon d'obtenir du commandement allemand du camp l'autorisation de pénétrer dans notre tôle pour nous jouer la Marseillaise. Les musiciens prennent donc place dans notre baraque et se disposent à jouer. À ce moment précis, nous sortons tous du local, laissant planter là nos enstalagués avec leurs tambours, avec leurs fifres, avec leurs sentinelles allemandes. Imaginez leur tête, imaginez la nôtre. Autre satisfaction pour moi, dans ces lieux, une sortie que me fait un jour le Feldwebel, c'est-à-dire l'adjudant, commandant la compagnie disciplinaire. Alors que nous nous trouvons seul à seul dans son bureau, il me dit d'un air rigolard. Celui qui s'évade est un bon soldat, mais le meilleur est celui qui réussit. Jugez de ma surprise. J'opine du bonnet, mais je me garde bien de lui dire que je serai bientôt un de ses meilleurs soldats. C'est également dans cette Strafkompanie, comprenez la compagnie disciplinaire, que je vois pour la première fois le portrait du général de Gaulle. C'est une photo de journal qu'un camarade a reçue camouflée au fond d'une boîte de conserve que sa famille lui expédiait. La photo du condamné à mort par Pétain est épinglée au mur, hors la présence des cheveux, bien entendu. Le courant passe vraiment entre les tolards. Après m'avoir désigné pour le camp de représailles de Lavarushka, en Ukraine, les Allemands me croyant repenti et manquant de manœuvre, reviennent sur leur décision et me transfèrent dans une laiterie beurrerie-fromagerie à Piritz, à l'est de Stettin. Dominique est affecté à une grande ferme appartenant à la fille que Guillaume II eut de sa femme de chambre. Il y sera encore maréchal Ferrand. C'est donc la séparation, après 2 ans de camaraderie. À Piritz, je fabrique du camembert, du brie et du hollande. Mais à l'inverse, du rat de Jean de La Fontaine, malgré le hollande, je ne fais pas longtemps retraite. Le temps d'entraîner 3 camarades vers l'aventure, c'est de nouveau la cavale. En septembre, vers 22 heures, après une échappée par les toits, 4 Kriegsgefangenen se glissent dans un wagon de Kartoffeln à destination de Mülheim dans la Ruhr, via les gares de triage Berlin-Lichterfeld et Hamm. Ils ont bien l'espoir de trouver dans ces 2 gares la fameuse rame pour la France. Mes compagnons sont Daniel Le Breton et Hubert Duval, 2 Parisiens, et Henri Henrion, 1 Bordelais. C'est toute notre popote qui va prendre le large. Nous partons dans une atmosphère de crise, car 2 camarades sont partis la veille et les Allemands sont furieux. Mais que voulez-vous ? J'ai repéré ce wagon en revenant de mon travail, et il est bien tentant. Premier incident, en se sauvant du commando, 2 de nos 4 bidons d'eau glissent sur un toit et nous échappent. Nous ne disposerons donc que de 4 litres pour nous abreuver. C'est peu. Pour la petite histoire et pour les sportifs, je précise que dans cette échappée par les toits, nous sommes spontanément aidés par une personnalité du monde cycliste d'avant-guerre, Maurice Richard. Maurice fut 2 fois recordman du monde de l'heure. Second incident, au lieu de démarrer à 23 heures, le wagon demeure immobilisé à 500 mètres du commando. La nuit passe. On s'attend à être cueilli. La journée s'écoule. Le soir, l'espoir renaît sérieusement. À 23 heures, enfin le départ. Nous dansons de joie sur nos pommes de terre. À Berlin-Lichterfeld, dans la nuit, j'entreprends seul les recherches, seul car mes compagnons ne sont quand même que des bleus. Et j'ai encore en mémoire ma première nuit d'évasion en compagnie de Dominique. Je ne trouve rien de valable. Je rejoins le wagon, comme le train démarre. Les gares défilent sous nos yeux. Brandenburg, Magdebourg, Braunschweig, Hanover, Bielefeld. Vive le chemin de fer! C'est quand même mieux que la marche. En fin de soirée, nous arrivons à Hamm, la plus grande gare de triage d'Europe, à l'entrée de la Ruhr. Dans la nuit, vaine recherche. La fameuse rame pour la France est introuvable. Le jour va poindre. Il faut se décider. Nous optons pour un autre wagon de Kartoffeln à destination de Bonn, à défaut de mieux. Il nous permettra de passer le Rhin. De là, la frontière belge ne sera qu'à 60 kilomètres. Nous traverserons Dortmund, Essen, Duisburg, Düsseldorf. Le matin, nous sommes à Cologne. Le wagon demeure en plein soleil, toute la journée. Encore 2 chemises, assoiffés, nous dormons sur nos pommes de terre. Assoiffés, car au cours de ces 3 jours, chacun n'a disposé que 1 litre d'eau, et il n'a quotidiennement mangé que 3 biscuits et 2 morceaux de sucre. À un moment donné, j'éternue. « Il y a des Russes là-dedans !» s'écrie une voix à proximité des wagons. Et d'ajouter, « Il faudra ouvrir le wagon dès son arrivée à Bonn. » c'est qu'en effet, le wagon est plombé. Voyez-vous, si mes études de la langue de Goethe dans ce vieux lycée de Quimper me sont utiles par les temps qui courent, un homme averti en vaut deux. Nous sautons sans cours de trajet et marchons pendant cinq nuits avec moult aventures, les unes comiques, comme lorsque je tire 8 litres de lait à une vache en plein champ à 3 heures du matin. Les autres surprenantes, comme celle où, dans un chemin creux, nous nous trouvons nez à nez avec 2 officiers de la Luftwaffe à l'entrée d'un terrain d'aviation. Absorbés par leur conversation, ils nous négligent. Ou encore, celle de tomber sur une batterie anti-aérienne de la ligne Siegfried, d'être arrêté par une jeune sentinelle qui trouve le moyen de nous relâcher après que nous l'ayons assuré que nous sommes des travailleurs italiens. Puis, l'un d'entre nous, Daniel Le Breton, malade par de l'eau puisée au fond d'un fossé, doit abandonner le groupe. Nous ne sommes plus que 3. À Eschweiler, dans la banlieue d'Aix-la-Chapelle, les choses se gâtent. Des Allemands nous prennent pour des Rouskis qui leur ont échappé la veille. Encore les Russes. Ah, cette main de Moscou, on la voit partout. C'est bien notre chance. Vous comprenez, nous venons de l'Est. Cela doit se sentir. Quel flair, ces Allemands. Je suis brestois, bien sûr, mais de là à me prendre pour un gars de Brest-Litovsk, il y a une marge. Eh bien, ils la franchissent. Et moi, du coup, je franchis le seuil d'une prison. Au cabanon, une fois de plus. Prison civile à Eschweiler pendant quelques jours, puis transfert à Aix-la-Chapelle et incarcération au fond d'une salle de cinéma, lieu de rassemblement d'autres malchanceux de l'évasion. Le groupe grossit d'heure en heure. On s'amuse à découvrir la tenue vestimentaire de chaque arrivant. Je n'oublierai jamais l'un d'eux. Il a des bottes superbes, bien cirées, un chapeau tyrolien vert orné d'une plume. Dire qu'on a eu le culot de l'arrêter, avec un si beau chapeau, une si belle plume, clame l'un d'entre nous. L'ambiance évadée est créée. Après 5 ou 6 jours, un rassemblement dans la rue, devant l'établissement. Je suis l'interprète pour déclarer aux amis que le premier d'entre nous qui tente de s'échapper sera abattu. « Dis-lui qu'on l'emmerde !» déclare une voix. L'interprète ne traduit pas, mais il est heureux de l'écho de sa communication, car il aime les hommes de tempérament. Être à 5 kilomètres de la frontière et ne pouvoir s'échapper à un coin de rue avant d'être renvoyé au-delà de mon point de départ à l'autre bout de l'Allemagne. Hélas ! À pied, nous atteignons Düren, où nous subissons la célèbre fouille-maison dans le château. Puis, nous poursuivons sur Arnoldsweiler, où la Wehrmacht nous interne dans le camp bien connu des évadés. Ce n'est pas un 3 étoiles, je vous l'assure. J'y séjourne un peu plus d'un mois. Une nuit, vers 1 heure, rassemblement sur la place d'appel. Des camarades d'une baraque voisine des barbelés ont commencé à s'évader par un souterrain. 12 hommes sont déjà partis. Mais, manque de chance, une alerte aérienne et un bombardement. Il fait clair comme en plein jour. Un camarade est tué. 11 hommes sont repris. Devant mon engouement, pour le voyage, ne viens-je pas de parcourir 750 kilomètres? Et sans doute, pour ne pas être en reste, les Allemands s'empressent de doubler la mise et m'offrent un Arnoldsweiler Ravarushkaya, en Ukraine, 2300 kilomètres, voyez du peu, via Sagan, en Silésie, en wagon à bestiaux. Mon wagon est un wagon français. Sur sa paroi, il est inscrit « Chevaux 8 en long. » Tiens, aurait-il deviné que j'étais artilleur hippo? Quelle prévenance! Enfin, prenant sous pas, direction Ravarushkaya. Il s'ensuit que lors de ma prochaine tentative, ma ligne de départ se situera encore à l'est, à moins qu'en cours de trajet, qui sait, si l'occasion se présente, un petit saut dans la nature, cette nature qui est là, qui s'offre et qui vous invite. D'autres pigeons voyageurs, d'aucuns disent voyageurs pigeonnés, m'accompagnent dans ce voyage organisé. Nous traversons la Rhénanie, la Thuringe, la Saxe, la Silésie, contrée magnifique sans doute, mais nous n'avons rien vu de l'intérieur de l'Ostsleeping. Nous voici en Pologne. Un matin, le convoi ralenti s'arrête. Des ordres en teuton sont criés sur la voie. Les postènes ouvrent les portes du wagon, enregistrent de nouveaux ordres et hurlent « Alle herunter, latrinen !» ce qui se traduit en franzouski « Tout le monde par terre, faites vos besoins. » Cela n'est pas trop tôt, pensons-nous. Je saute sur le ballast. Novembre, en Pologne, c'est déjà une bonne froidure. Malgré un léger brouillard, nous apercevons une ville importante sur notre gauche. C'est Cracovie. Nous venons donc de traverser une certaine gare d'Auschwitz. Auschwitz, cela ne nous aurait rien dit à cet instant. À Cracovie, nous sommes à une certaine distance de la gare. De la trine, point. Nous nous regardons. Interrogateur. Les Feldrau nous font nous ranger le long du train, sur le ballast. En moins de temps qu'il faut pour le dire, nous sommes accroupis et 1200 faces lunaires sont alignées en randonnion, bien entendu. Pendant ce temps, les représentants de l'armée allemande, debout, l'arme basse sous le bras, semblent nous rendre les honneurs, tandis que 1200 sentinelles françaises prennent position sur le ballast. Soudain, un roulement de wagon se fait entendre. C'est un train de banlieue. Les wagons, à plateforme aux extrémités, sont archibondés d'ouvrières et d'ouvriers polonais gagnant leur poste de travail à Cracovie. Parmi eux, des adolescents. Le convoi avance au ralenti, comme si son mécanicien voulait donner un caractère plus solennel à l'événement. Nous nous regardons, peu à l'aise, indécis. Quoi faire? Nous relever, nous mettre au garde à vous, et saluer militairement, avec le pantalon affaissé sur les chevilles? Vous voyez un peu le tableau? Non, pas possible. Et cela d'autant plus que nous n'avons pas de temps à consacrer aux civilités. Les Allemands nous ont fait une fleur, il faut en profiter. En outre, à quoi bon esquisser un geste de pudeur? Notre anatomie n'a-t-elle pas été l'objet d'un examen immédiat par les banlieusards? Nous conservons donc la position du tireur accroupi et nous continuons à apaiser le feu de nos entrailles. Un vieux Brestois, mon bisaïeul Jean-Marie Piriou par exemple, ou mon trisaïeul Jean Piriou, tous deux cordiers au port de Brest, vous aurez tout bonnement dit, nous continuons à faire de la corde pour la marine. Nous répondons toutefois aux signes amicaux des Polonais dont le convoi passe en revue les 1200 Français impeccablement alignés. Première rencontre franco-polonaise en territoire polonais. Rencontre de deux groupes du bétail allemand. Des deux troupeaux, les rires fusent à en faire pipi dans sa culotte si les dispositions matérielles s'y prêtaient. Aucun risque, bien sûr. Tandis que s'éloigne le train de banlieue et que le rideau tombe sur cette scène grotesque, mon rire se prolonge. Rêveur, je m'interroge. Mais ces Polonais, nous voyant ainsi sans nos chausses, n'ont-ils pas fait leur rapprochement avec les fameuses sans-culottes de l'an 2 que célébra Victor Hugo? les vers du poète me reviennent. Ils chantaient, ils allaient, l'âme sans épouvante et les pieds sans souliers. Nous aussi, sans souliers, les boches, nous les ont confisqués à Arnoldsweiler. Et Joubert sur la Dige, et Marceau sur le Rhin, et nous, présentement, en batterie sur la Vistule. On battait l'avant-garde, on culbutait le centre, on voyait marcher ces manubés superbes sur le monde ébloui. Superbe, superbe, c'est à voir. Le mot est peut-être un peu fort. Le sommes-nous, vraiment? La trine verdisch, hurlent les teutons. Le rêve passe. Fini l'éblouissement. Retour aux matérialités. Pas de papier, bien sûr. Comme nos ancêtres de l'âge de pierre, il faut utiliser les cailloux. Rassurez-vous, il y en a. Nous sommes sur le ballast, sur le tas. Quelle aubaine! D'un œil torpe, torpe, parce que nous ne sommes plus de la première fraîcheur après nos récentes migrations, nous cherchons le spécimen aux arêtes les plus convenables. Puis, nos bouches à feu sont recouvertes de leurs courbes culasses. Les artilleurs me comprendront. Les autres, peut-être également. Nous remontons dans nos prisons roulantes. Au revoir, Cracovie, terre d'apaisement. Ô combien ? En route, direction Ravaruskaya. Telles furent les premières foulées polonaises d'un soldat de l'an 3. J'ouvre ici une parenthèse pour m'adresser à vous qui m'écoutez actuellement. Au départ, je ne voulais enregistrer que cette scène tragicomique en gare de Cracovie, d'où sa relative longueur. J'ai ajouté un brin de fantaisie pour amuser. Mais à chaque audition, il me fut demandé de raconter les événements antérieurs à cet épisode de ma captivité. J'ai donc greffé le début de celle-ci. À présent, vous attendez sans doute une seconde greffe, c'est-à-dire la suite de mon aventure. Eh bien voici. Mais je n'aurai sans doute pas souvent l'occasion de plaisanter. Me voilà donc à la Varushka, la terre promise par les bourreaux nazis. Ceux-ci ont installé la plupart de leurs camps d'extermination dans la région, plus précisément dans le triangle Varsovie-Cracovie-Lemberg, c'est-à-dire le Vaud, en slave. C'est le Judenkreis, traduisez le district des Juifs, avec les camps de Sobibor, Treblinka, Chelno, Majdanek, Auschwitz, Belzec. Belzec n'est qu'à 35 kilomètres de nous. Nous ne connaissons pas encore le nom de ces camps. Mais au fait, que savons-nous, nous les gars de Rava, en ces jours de novembre 1942? Primo, qui sommes-nous? Des candidats à l'évasion, récupérés un peu partout, parfois en France, parfois même sur la ligne de démarcation. Nous avons beaucoup vu, beaucoup entendu. Aussi sommes-nous assez informés. Nous savons par exemple comment nos pauvres camarades prisonniers de guerre russes sont traités, sont tués. Die Russen, genau wie Vieh, les Russes exactement du bétail, déclare souvent l'Allemand, même le civil. Nous avons une opinion bien établie sur nos vainqueurs pour les avoir vus à l'œuvre. Secondo, qu'apprenons-nous ici? Nous apprenons que 15 000 prisonniers de guerre russes occupaient notre camp avant notre arrivée et que ces malheureux sont tous morts. Nous apprenons qu'en juillet dernier, voici 3 mois, des camarades qui se trouvait en corvée dans la petite ville de Ravarushka, 9000 habitants environ, ont assisté à la rafle des 6000 juifs de la localité. Une véritable tuerie. Nous apprenons que des gens, des juifs, des polonais et d'autres, sont rassemblés dans des camps pour être exterminés massivement dans des fosses communes par fusillade. On me parle même de piscine, ce qui se révélera inexact. La gare de chemin de fer est à 200 mètres de l'entrée du camp. Les camarades qui s'y rendent pour travailler assistent chaque jour à des scènes abominables, lors du passage ou lors de l'arrêt des trains et de condamnés dirigés sur Belzec. Belzec où, on le saura plus tard, 10 000 personnes peuvent être exterminées chaque jour. J'aurai toujours en mémoire ce que me rapporte un camarade. Sur le quai de la gare, une femme tenant un bébé dans ses bras s'est échappée d'un wagon pour se précipiter vers un point d'eau. Une sentinelle allemande l'a refoulée dans le wagon et a fracassé le crâne du bébé contre la paroi de ce wagon. Un autre me déclare, ici, on tire l'homme comme en France, on tire le lapin. Si je tente de m'évader, je sais donc à quoi m'en tenir. Ayant vu en Allemagne, à Stargard précisément, comment un être humain peut être traité, et je pense encore aux prisonniers de guerre russes, je ne suis donc pas surpris. Pour moi, ce n'est que la confirmation de la bestialité allemande de l'époque. Nous comprenons dès lors la raison de notre transfert dans cette région. Si les Allemands nous traitent encore en soldats, si je peux m'exprimer ainsi, ils savent qu'une fois victorieux de cette guerre, ils pourront enfin traiter ici, et à leur guise, les récalcitrants que nous sommes. Alors, fi des traités internationaux, alors viendra notre fin. De cela, nous sommes conscients. Dès mon arrivée à Rava, je m'inquiète de mon frère Georges, qui a échoué ici en juin dernier. Par Paul de Borgne, un Quimperlois, j'apprends qu'après avoir tout de tenté une évasion du commando de Svirziniec, avec 91 camarades, ils ont été ramenés à Rava. Georges a réussi à se glisser incognito dans un convoi à destination de l'Allemagne, il y a 8 jours de cela. Les retrouvailles sont donc manquées. Rava, c'est le camp du dénuement, le camp de la goutte d'eau, déclare Radio Londres. Un seul robinet pour les 12 000 hommes que nous sommes. Nous sommes démunis de tout, ayant tout perdu dans l'évasion. Mouchoirs, serviettes, brosses à dents, savon, peigne. Il nous arrive même de ne pas avoir de récipient pour recevoir notre pitance. Par contre, nous sommes dotés de poux. Le service de désinfection fonctionne 24 heures sur 24, nos gardiens craignant le typhus. Pour eux, et non pour nous, bien entendu. Nourriture infecte. Un mélange de farine de maïs, de morue rance, de grains de millet et de pommes de terre à moitié noires et non épluchées. Cette mixture a vite fait de vous détraquer l'organisme, déjà mal en point par le traitement subi lors des mois écoulés. Mon tube digestif est en pleine déroute. Mes sphincters ne se commandent plus, de jour comme de nuit. Quelle déchéance! Mes chevilles enflent si je demeure trop longtemps debout. Je suis cependant d'une bonne nature. Des camarades dorment dans les water pour être à pied d'œuvre. J'ai froid. Je vous rappelle qu'on est en novembre. Pas de coiffure, pas de manteau, les pieds dans des sabots de bois avec des chaussettes russes, c'est-à-dire un carré de chiffon. Je dispose d'une seule couverture qui, le jour, me sert de jupe pendant que sèche mon pantalon. S'il y a déchéance physique, le moral demeure. Et chacun répète comme un leitmotiv, la prochaine fois sera la bonne. Vous avez compris qu'il s'agit d'évasion. À Rabat, j'apprends une chose surprenante. Un article de la Convention de Genève prévoit qu'un sous-officier prisonnier de guerre n'est pas tenu de travailler. Je vous remets en mémoire que je suis maréchal des logis. J'apprends cela après 5 ans et demi du port de l'uniforme. Dans l'armée française, on n'a même pas instruit les sous-officiers qu'en cas de captivité, ils ne doivent pas travailler pour l'ennemi. De ce fait, 150 000 d'entre eux, ignorants de leurs droits et de leurs devoirs, sont donc au travail pour le Grand Reich. Lamentable. Jargue de mon droit. Vous serez interné jusqu'à la fin de la guerre, me déclare-t-on. Je rumine dans mon fort intérieur, parle toujours, sache-le, quand je me serai refait une santé, on en reparlera. On me dirige sur le camp de Kofiarsin, au camp 369, sur une colline dominant Cracovie, où je rejoins 5 000 sous-officiers réfractaires, dont le tiers vient de Ravarushka. Si l'Allemand comprend volontiers la position de l'évadé qui a tout de même l'espoir de la réussite, ce n'est pas le cas pour celle du réfractaire qui érige en principe son refus de travail avec tous les inconvénients matériels qui découlent de cette attitude. Ce refus, ses camarades l'ont maintes fois renouvelé depuis 2 ans et demi, malgré les sanctions, malgré les menaces. Ce n'est pas si facile de dire non à l'Allemand quand il vous tient dans ses griffes. Kofiarsin est toujours dans la Todeszone, la zone de mort. Le colonel de la Wehrmacht, commandant le camp, semble vouloir nous le rappeler un jour en nous déclarant que nous ne reverrons plus la France. À propos de Wehrmacht, je précise que j'ai toujours été sous son autorité, jamais sous celle des Waffen-SS, sauf lors des fouilles surprises à Kofiarsin. À mon retour en France, mon poil se hérissera souvent lorsqu'on me parlera de cette Wehrmacht. Si elle n'osa pas trop s'exprimer en France, dans les pays de l'Est, elle joua parfaitement son rôle d'auxiliaire des SS. Les populations et les soldats de ces pays en savent quelque chose. Les gars de Rava et ceux de Kofiarsin également. Durant ma captivité, je n'ai pas rencontré de groupe aussi sain que celui de Kofiarsin. Un seul fait vous éclairera. Nous avons réussi à monter un poste radio-récepteur dans chacun des 3 blocs. Aussi, tous les jours, pendant 2 ans, le communiqué allié sera lu dans toutes les baraques, à la barbe de nos gardiens. Situation impensable dans tout autre camp. À la barbe, également, du bourreau de la Pologne, le Gauleiter Frank, dont le poste de commandement est installé au château royal de Wawel, à Cracovie, sous nos yeux, à 4 kilomètres à peine à vol d'oiseau. Ce grand criminel éprouve un jour le besoin de nous rendre visite. Nos têtes l'intéressent-elles, ce futur pendu de Nuremberg? C'est à Kofiarsin que j'apprends la victoire de Stalingrad, le tournant de la guerre. Nouvelle considérable. Pour la première fois, l'Allemand subit la défaite. Quel choc. Difficile à réaliser lorsqu'on n'a pas pleinement vécu l'événement. Dans les baraques, c'est l'effervescence. Heureusement, les Allemands ne le remarquent pas. Pour nous convertir, les Allemands ont installé des haut-parleurs dans le camp et nous impose le sordide Radio Paris. C'est ainsi qu'au printemps de 1943, nous apprenons l'arrestation en France de résistants du plus haut niveau. Nous résistons, nous aussi, comme nous le pouvons, où le sort nous l'a placé, et je suis affecté par cette nouvelle. Ce n'est qu'en mai 1945, entré en France, que j'apprendrai de la bouche de mon père que Jean Moulin était du nombre. Jean Moulin, le jeune sous-préfet de Châtelain, la ville de ma jeunesse. Jean Moulin, fondateur, avec mon père, de notre amicale laïque châtelinoise, où nous nous retrouvions entre amis. Je suis interné pendant 2 ans à Copiercine, au bloc 3, baraque 49, grande chambre. L'inaction me permet de retrouver un état de santé acceptable pour envisager une nouvelle tentative d'évasion. En Allemagne, la main-d'œuvre manque plus que jamais. Aussi, les Allemands nous font-ils des propositions surprenantes. Pour nous tenter, ils nous proposent de rejoindre un parent en Allemagne. Je me découvre un beau-frère prisonnier à 12 kilomètres de Forbach. Mais quelques centaines de camarades, anciens de Rava pour la plupart, font une découverte du même genre, pas loin de la France. Les Allemands ont vite compris. Je ne ferai donc pas la connaissance de ce beau-frère. C'est bien regrettable. Il nous informe ensuite de la possibilité de choix de la branche d'activité. Je veux m'évader. J'accepte. C'est ainsi qu'en juillet 1944, je débarque en Saxe. Je fais équipe avec 2 camarades de Rava et du bloc 3 de Copiercine, un Parisien, René Vaillet, et un Bourguignon, Gabriel Joly. En 4 mois, nous sommes affectés à Mühlberg, Torgau, Liebenwerda, Wittenberg an der Elbe, ville rendue célèbre par Luther, Halle, Hohenleipisch, Elsterwerda, où se noya le maréchal Poniatowski. Nous touchons à tous les métiers, épicier, confiturier, fabricant de charbon de bois, fondeur. Nous nous retrouvons même dans une mine de lignite à ciel ouvert. Bref, nous effectuons un véritable rodéo à travers des commandos où, en toute sincérité, nous jetons un peu la perturbation parmi les prisonniers qui s'y trouvent depuis 4 ans, prisonniers qui n'ont pas bougé. Au fait, comment les retrouvons-nous, ces prisonniers, après nos 2 ans d'internement en Pologne? Ils interprètent les événements à peu près correctement. Cependant, à Wittenberg, au commando de la confiturerie, un portrait de Pétain trône dans la baraque. René Vaillet, qui après-guerre sera 2 fois champion de France de hockey sur glace, homme d'action par conséquent, saute sur le portrait et l'arrache en proclamant « Tant que nous serons tout droit dans la baraque, il n'y aura pas cette gueule-là ici. » Stupéfaction des prisonniers. Les Allemands ne formulent aucune remarque.
À Elsterwerda, notre baraque se trouve en bordure de la gare de marchandises.
Nous nous mettons en rapport avec un cheminot français qui y travaille. C'est un nommé Morvan de Concarneau. Il a déjà fait filer des aviateurs canadiens vers la Suisse. Il doit nous prévenir de la présence de tout wagon intéressant. Mais l'affaire traîne. Les convois ferroviaires se font moins nombreux, car le front de l'Est se rapproche. Nous comprenons que nous perdons notre temps. Notre présence au travail ne se justifie plus. Nous refusons de travailler. Mauvaise humeur de l'Allemand, bien entendu. Il en a perdu de sa superbe. Il est révolu. Le temps où, à Regensin par exemple, il voulait me faire commander la plotte à mes camarades de commando. Ordre que je refusais catégoriquement d'exécuter. À mes risques et périls, bien entendu.
À m'entendre,
Vous devinez mon antipathie pour les Allemands que j'ai côtoyés. Que voulez-vous ? Je n'ai pas rencontré les bons Allemands. J'ai rencontré les mauvais. Ceux qui, sans sursaut, acceptèrent de porter l'uniforme et le fusil pour servir le nazisme. Ils sont responsables de tant de morts. J'ai également rencontré les quelconques dangereux, parce que quelconques, vous savez, ces civils bien crédules qui, après avoir accordé 92% de leur suffrage au parti nazi, faisaient un beau rêve de domination du monde et qui, sous mes yeux, à chaque victoire nazie, hissaient tous leurs drapeaux à leurs fenêtres pendant que leur poste radio hurlait à puissance maximum le Deutschland über alles, suivi du Horst Wessellied. À l'heure où dans les pays opprimés, des courageux entraient dans la résistance, eux, ces quelconques, entraient dans la Volkssturm pour faire de chaque village allemand le dernier bastion du nazisme devant les armées libératrices. Certes, les Allemands ont été humains avec moi, mais dans cette conjoncture, l'humanité ne suffisait pas. On demandait à l'homme du courage et des actes pour lutter contre la bête nazie. Dans ce domaine, je n'ai rien remarqué en Allemagne. Ne me dites surtout pas qu'ils ne savaient pas. 275 divisions allemandes mettaient à feu et à sang les territoires de l'Est. Ils procédaient au plus grand génocide de tous les temps et la population allemande n'en aurait rien su. Si quelqu'un veut parler de secret, parlons alors de secret de polichinelle. J'aurais aimé rencontrer les bons Allemands. Malheureusement, ils étaient à Dachau, à Buchenwald ou à Mauthausen, quand ils n'avaient pas été exécutés. J'aurais pu en rencontrer au camp d'extermination de Mauthausen, puisque c'est sur ce camp que les prisonniers de guerre, officiers et sous-officiers non-travailleurs, repris en évasion, devaient être dirigés pour y être exécutés par balle, selon un ordre secret du commandement supérieur de l'armée allemande. Je viens de vous dire à l'instant comment j'ai renoncé à l'évasion en 1944. Eh bien, sans le savoir, ce renoncement m'a sans doute permis d'échapper à semblable exécution. Mais quelle est donc cette note par laquelle le commandement supérieur de la Wehrmacht a souillé l'uniforme allemand d'une tache indélébile? C'est un chef-d'œuvre de fourberie pour dissimuler des crimes qu'il ordonne. Au moment où je vous parle, j'ai entre les mains une traduction du texte qui traite de cette question. Cette pièce figure dans les archives du tribunal de Nuremberg. Il s'agit du Kugel Erlass, mot à mot, le décret de la balle. Ce sont les instructions données par l'armée que la section d'Aix-la-Chapelle de la police de sûreté de l'État répercute sur toutes les directions de police du Reich. Elle date du 6 mars 1944. Son objet, mesure contre les prisonniers de guerre, officiers et sous-officiers, non-travailleurs, repris après évasion. Son contenu, en clair, ceci. Document à transmettre secrètement et à traiter comme matériel gouvernemental secret. Remise des prisonniers repris au service de la sûreté, sous la classification échelon 3, ce qui sous-entend extermination. Le transfert des prisonniers à la police ne doit pas être porté à la connaissance officielle de l'extérieur, en aucun cas. Les autres prisonniers de guerre ne doivent pas être informés de la reprise de leurs camarades. Ceux-ci doivent être signalés au bureau d'information de l'armée comme évadés et non repris. Lors des enquêtes, des représentants de la puissance protectrice, de la Croix-Rouge internationale ou d'autres sociétés d'assistance, il faut donner les mêmes renseignements que précédemment. La police transmettra les prisonniers au camp de concentration de Mauthausen, selon la procédure habituelle. Pendant le transport, mais non dans les gares, s'ils sont soumis à la vue du public, ils seront enchaînés. Il faut aviser le commandant du camp de Mauthausen que ce transfert a lieu dans le cadre du décret Kugel. Kugel en allemand veut dire balle. Elle est signée par le général SS Müller. Conduis immédiatement au bunker du camp de Mauthausen. Les suppliciés furent généralement tués d'une balle dans la nuque, au moment où l'Allemand simulait une prise de mensuration à une toise appliquée contre un mur. Ce mur comportait une fente verticale. Un tueur muni d'une arme à feu se trouvait derrière ce mur. Le dossier de la victime était immédiatement détruit par un secrétaire interprète, un républicain espagnol détenu. Celui-ci, voué à la mort, car connaissant trop de choses accablantes, eut la vie sauve grâce à la résistance intérieure du camp. Un de mes amis de Kopiertzin l'a plusieurs fois rencontré après-guerre. Mon information vient de lui. Quel fut le nombre des victimes? 637 pour l'année 1944. Leur identification est impossible, car les états établis étaient numériques et non nominatifs. Voyez-vous, si ma tentative d'évasion en 1944 n'avait pas avorté, en cas d'échec, je devenais immanquablement la 638e victime de la toise du sinistre bunker de Mauthausen pour l'année 1944. Voilà comment l'armée allemande a traité les prisonniers de guerre. Elle est devenue une organisation criminelle. Devant elle, j'ai vu des gens enthousiastes ou des gens passifs. Je vous ai parlé d'antipathie à leur égard. Celle-ci est pleinement justifiée. Croyez-moi, je connais très bien mon sujet. Mais revenons à ma vie quotidienne. Refus de travail par conséquent. Retour à Torgau, puis à Mühlberg, au Stalag 4B, où nous rejoignons une compagnie de sous-officiers réfractaires. À cette heure, j'en suis à mon 7e changement de stalag. En outre, j'ai passé dans 8 commandos. Parlez-moi du voyage et de ses joies. À Mühlberg, c'est l'attente dans une véritable tour de Babel. Toutes les nationalités du globe y sont bientôt représentées parmi les 36 000 résidents. 4 mois plus tard, le 23 avril 1945, moment inoubliable. Au petit jour, vers 4 ou 5 heures, un cri dans la baraque. Les Russes sont là. Je bondis hors de ma paillasse. Je fonce vers l'est du camp. Spectacle extraordinaire. La plaine de Saxe est sous mes yeux, inondée de soleil. À l'est, une forêt de sapins. De sa lisière, au pas de leurs petits chevaux, et cela, jusqu'à l'horizon, sortent des groupes de cavaliers. Les Cosaques. ces fameux Cosaques de mes lectures enfantines, les descendants de Taras Bulba. Ils se dirigent vers l'Elbe, toute proche. Bientôt, les chars T-34 débouchent hors des chemins forestiers. Le spectacle est grandiose, l'instant extraordinaire, l'émotion à son comble. Je vis un grand moment de l'histoire. Je demeure bouche bée. Près de moi, un grand gaillard, amaigri, immobile, laisse couler ses larmes. J'en fais autant. Le cauchemar prend donc fin. Libéré et libérateur fraternise. Je vais donc pouvoir quitter ce pays où j'ai rencontré des gens si cruels et où j'ai vu des choses aussi abominables. Après-guerre, en lisant les mémoires du maréchal Konieff, j'apprendrai que ces cavaliers qui nous libéraient étaient ceux du premier corps de cavalerie de la garde du général Baranov. Ils venaient de livrer de rudes combats dans la région de Breslau. J'apprendrai également, par cette lecture, que Baranov était chargé d'une mission secondaire lors de sa percée sur l'Elbe. Voyez un peu ce qu'écrit Konieff à ce sujet. Derrière l'Elbe, là où devait déboucher Baranov, se trouvait, selon les renseignements reçus, l'un de nos plus grands haras que les Allemands avaient ramené du Caucase Nord. En même temps que d'autres missions plus importantes, j'avais confié à Baranov celle de pousser une reconnaissance spéciale pour le retrouver et, dans ce cas, de s'en emparer sain et sauf. Je dois dire que Baranov s'acquitta parfaitement de cette tâche. Il franchit l'Elbe dans la région de Riza, retrouva les traces du Hara, le captura à peu près intact. Par la suite, les chevaux furent tous ramenés à l'endroit où l'ennemi s'en était emparé en 1942. Le cavalier que je suis se devait de vous raconter cela. Me voici donc libéré. Pendant quelques jours, Baranov installe son poste de commandement dans les locaux, laissé libre par nos gardiens du camp de Mühlberg. Nous apprenons bientôt que le commandement russe envisage de nous rapatrier par Odessa et par Marseille. Ce qui veut dire que nous allons retourner à Cracovie, à Rawalushka, à Lemberg. René, Gabriel et moi, nous en avons la nausée. Nous sommes devenus des aventuriers. 30 kilomètres séparent les deux fronts de l'Est et de l'Ouest. C'est dans nos cordes. Nous tenterons le passage. C'est folie de notre part, car des prisonniers de guerre britanniques ont été abattus la veille lors de semblables tentatives par des Allemands qui remontent vers le nord pour la bataille de Berlin. Nous passons l'Elbe à Riza, grâce à un pont de bateau construit par le génie russe. Nous parvenons à Oschatz. Nous atteignons la rivière Mulde à Grimma, à 14 kilomètres au nord de Kolditz. Les Américains s'y trouvent et se proposent de nous diriger sur un camp. Un camp? Mais que diable! On ne connaît que cela. Nous en sortons. Nous sautons un talus et nous nous enfuyons comme des voleurs. Nous rentrerons en France à pied s'il le faut. Nous marchons plusieurs jours dans la région sud de Leipzig, en quartier allemand, tels les deux grenadiers de la grande armée dont Henri Heine relatait les états d'âme. Eux aussi rentraient de captivité en Russie comme nous, les gars de Rava. Le même scénario semble se dérouler. Je peux dire qu'il se poursuit avec notre entrée à Lützen, où, voici 132 ans, presque jour pour jour, les grognards de Napoléon battaient les Prussiens. Nous ne rencontrons pas de Prussiens, et nous ne battons que la semelle de nos godillots sur le pavé de Lützen. Toujours cap à l'ouest, bien entendu. Nous demandons des vivres au bourgmeister du lieu où nous faisons étape. Nous demandons même le tabac. Ne sommes-nous pas les vainqueurs, à présent? À quelques kilomètres de Lützen, aux environs de Weissenfels, un train se présentant, nous renonçons à la marche. Et, Kahinkaha, sur des voies ferrées à peine rétablies, toujours en wagon à bestiaux, nous retrouvons la France. Le 13 mai 1945, le sans-culotte de l'an 3, que vous avez vu, voici 2 ans et demi, sur le ballast, en gare de Cracovie, sur les bords de la Vistule, eh bien, vous le retrouvez, sautant encore d'un wagon, sur un ballast, mais cette fois en gare de l'Est, sur les bords de la Seine. À 31 ans, après 8 ans et 2 mois de vie militaire, et quelle vie, je retrouve la vie civile, mais ma jeunesse, qu'est-elle devenue ?